même jusqu'à Poutine. Il se lève de son trône, ôte son manteau, se couvre d'un sac et s'assied sur la cendre. Et il fait faire dans toute la Russie cette publication. Par ordre de Poutine et des autres oligarques, que les hommes, les animaux, les bêtes, les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait ? Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point ? Dieu, lui, vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de leurs mauvaises voies. Alors Dieu se repent du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fait pas. Deuxième texte. Je m'excuse, j'ai le nez qui coule, mais je n'ai pas de mouchoir. Il y a quelqu'un qui a un mouchoir. Sinon, vous allez entendre tout du long. Allez, coulez pas si fort quand même. Je vous remercie, désolé de cet intermède. Troisième texte, Nouveau Testament, Romains, chapitre 3, versets 21 et 26, texte de Paul. Plus compliqué. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous, vous, moi, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Nous rentrons de vacances. C'est toujours agréable d'être en vacances. On est parti quelques jours en famille, enfin sans Noé qui est toujours à l'armée. Il fait sa dernière semaine, on est content pour lui. Et on est allé, on était très content de pouvoir retourner dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, lieu très important pour notre famille, puisqu'on y a passé presque toutes nos vacances. J'ai étudié là-bas avec Corinne, enfin voilà, c'était un peu un retour aux sources. On s'arrête à Valence, on fait une petite pause, on mange, tout va bien, la vie est belle. Donc nous sommes en camping-car, nous avons un camping-car. On a fini de manger, on va sur le parking, et non seulement le tombeau du Christ était ouvert, mais notre camping-car aussi. Voilà, on voit, on rentre dehors, on se dit, tiens, est-ce qu'on aurait oublié de le fermer ? Non, quelqu'un s'est chargé de l'ouvrir pour nous. Pas d'ange aux alentours qui nous demandait de crier « Hosanna ». D'autres paroles sont sorties de notre bouche, je ne les citerai pas. On est entré effectivement dans notre camping-car et voilà, ce qui est arrivé est arrivé. Quelqu'un a pensé qu'il y avait des choses intéressantes dedans. C'est pourquoi ils nous ont volé deux, trois choses, dont deux trousses de toilette et un duvet. On se dit que certainement ça devrait être utile et tant mieux pour eux. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, il y avait trois ordis, ils ont décidé de prendre que le mien. Pourquoi pas ceux de mes enfants ? Mais je ne sais pas, ils n'ont pas... Voilà. Donc, et à ce moment-là, quand vous êtes dans cette ambiance, là je rigole, mais là, sur le moment on ne rigolait pas trop, il y a un sentiment de justice qui monte en vous. Un sentiment de justice, mais pas très proportionné. On les voit pendus, on les voit dans des situations extrêmes, on a envie de leur frapper dessus. Il y a cette justice qui monte en vous, ce désir de justice, certainement axé beaucoup plus sur la vengeance. C'est cette justice primaire. Certainement pas pour rien que dans l'Ancien Testament, à un moment, Dieu a dû mettre le haut là, il a dit « Oh, stop, œil pour œil, dent pour dent, on ne va pas aller plus loin. Tu as volé un duvet, tu voles un duvet. » Tu ne le massacres pas. Il a fallu mettre une limite à cette justice. Vous savez, c'est ce qu'on découvre sur la route aussi. De phare pour vous dire, il y a beau avoir une loi qui nous dit qu'on est à 120, même si vous êtes à 140 et quelqu'un à 160, il faut les appels de phare pour vous dire que vous n'êtes pas juste. Vous êtes en tort, c'est cette justice primaire, primate, qui est au fond de vos tripes et qui très souvent sort quand vous êtes dans un sentiment d'injustice. Et celle-là, elle doit être un tout petit peu cadrée, c'est pourquoi Dieu a mis ce œil pour œil, dent pour dent. Première chose. Deuxième, je fais un peu d'actualité, le Covid. Qu'est-ce qu'il nous a dit de la justice, le Covid ? Je trouve très intéressant parce qu'au travers du Covid, nous avons découvert deux choses. C'est qu'on peut percevoir la justice sous l'angle de la légalité ou sous l'angle de l'égalité. La légalité ou l'égalité. Et les deux choses se sont un tout petit peu confrontées. Certains voulaient l'égalité, tous traités de la même manière. Et d'autres, il y avait une légalité, des règles, des lois qui étaient posées, mais qui posaient une inégalité. Hein ? Je ne sais pas si vous avez déjà mis des enfants dans une chambre, vous en donnez deux bonbons à un, trois bonbons à l'autre et quatre au dernier. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? C'est juste, t'as raison, c'est profondément injuste, c'est pas juste, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas ça. Et je pense qu'il y a vraiment cette question-là qui s'est jouée dans le Covid. Quelqu'un a dit « La justice se dit en deux sens, comme conformité au droit ou comme égalité ou proportion. » Et la question, c'est comment on va tenir ces choses ensemble. La question de la légalité, la loi, comme j'ai dit à un moment, elle a dû être posée et Dieu l'a fait. Et l'Ancien Testament, souvent, on n'aime pas lire, notamment tout le Lévitique et toutes ces parties, parce que ce sont que des textes de loi. Mais la loi est très importante aussi dans l'Ancien Testament, où les 10 commandements, qui sont les bases de la loi, qui sont les bases, le fondement de notre vie chrétienne, c'est basé sur une loi. Et pourquoi ? C'est parce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui doit nous poser un cadre pour éviter que ce primate que je suis laisse aller au-delà et il pose des règles. Et ce qu'on n'aime pas dans la loi, c'est qu'elle fait autorité indépendamment qu'on considère qu'elle est juste ou pas. Parfois, on considère la loi comme injuste. Je ne sais pas si vous aviez suivi, voilà, maintenant que j'ai perdu son nom, le pasteur qui a failli être emprisonné parce qu'il a accueilli un migrant. Norbert Vallet, pourtant il a fait quelque chose contraire à la loi, que le peuple suisse a voté. Il a accueilli quelqu'un, il n'avait pas le droit de l'accueillir. Et pourtant on trouvait ça profondément injuste, accueillir un migrant. Qu'est-ce qu'il y a de mal ? Et pourtant la loi fait que dans ce contexte dans lequel il l'a fait, il n'avait pas le droit. Il y a la loi qui fait autorité, parfois on considère cela comme injuste. Comment on gère ces deux choses ensemble ? Et c'est ça qui est parfois compliqué dans la justice. Notion arba, et nous on veut parfois une égalité ou une inégalité. C'est une notion arbitraire et qui parfois est donnée indépendamment de nos valeurs. Ce qui fait que ce qui est très important, c'est qui détermine la loi. Si vous regardez dans la Genèse, moi j'ai jamais compris pourquoi il y a cette loi qui tombe tout d'un coup là au milieu. On est dans un monde parfait. Tout est bon. Pourquoi mettre une loi ? Tu peux tout avoir, sauf ça. Sinon, tu meurs. Complètement arbitraire. Ça tombe, il n'a rien demandé. Peut-être même qu'il a considéré injuste. Non, ce n'était pas possible, le péché n'était pas là encore. Mais c'est arbitraire. La seule chose qu'on peut se dire, c'est que celui qui donne la loi est profondément bon, donc c'est bon pour moi. C'est ça qui va changer cette notion-là. Et si vous êtes dans un pays où il y a un dictateur qui vous fait du mal, ou vous veut du mal, la loi qui va tomber, vous la mettez légèrement en doute parce que vous dites, voilà, Poutine, peut-être quand il sort une loi, je ne la regarde pas avec le même œil que quand c'est Dieu. Mais il y a cette notion d'arbitraire, il faut l'accepter. Et quand des gens ont dû décider pour le Covid, il y avait une notion arbitraire qui tombait, et ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient. On est pour, on est contre, et oui, ça a amené une inégalité. Mais je pense que les deux choses ensemble n'étaient pas possibles. Et le rôle d'un avocat, finalement, c'est ça. Il doit faire, même si c'est le pire truand qui existe, que devant la loi, il soit traité également que n'importe qui d'autre. Et que ce côté de vengeance ne prenne pas le dessus. il doit réguler cette question-là. Donc oui, il y a le Covid qui a amené ça. Troisième petit axe, Pâques. On a vécu Pâques, ce merveilleux moment dans le christianisme, quand même, ce souvenir du Fils de Dieu crucifié, ressuscité. Ce juste, parfaitement juste, qui nous rend juste par sa mort et sa résurrection. On appelle ça la justification. Le texte de Romains le précise. Mais franchement, un innocent qui meurt pour des coupables, c'est juste ? Vous trouvez ça juste ? Les philosophes disent, s'il fallait pour sauver l'humanité condamner un innocent, non ! On ne peut pas condamner un innocent pour des coupables. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et pourtant, c'est ce que nous croyons. Un innocent mort pour des coupables. Est-ce qu'on considère ça comme de la justice ? Et pourtant, c'est parfaitement juste. Visiblement, à nos yeux humains, je vous rassure, je commence à mettre des petites nuances à ce que je dis, c'est pas juste. Une personne qui meurt pour tout le monde, c'est juste ? Profondément juste ? Il n'y a pas d'égalité là. Il n'y a pas d'égalité de traitement et pourtant, ce n'est pas juste. Il semblerait que Dieu a une autre notion de la justice que la nôtre. Tout autre. Et c'est ce qui est perturbant dans Job des grands. Dieu a une justice que Jonas n'aime pas du tout. Tout d'un coup, des grands méchants qui sont sauvés. Alors, je n'ai pas lu le chapitre 4 qui est le meilleur, hein, où il s'énerve. Et puis quand Dieu s'occupe enfin de lui, il est content. Enfin bref. On constate donc que la notion de justice n'est pas si simple. C'est quand on dit, voilà, on a été justifié par le Christ, que Dieu a fait justice sur la croix, finalement on dit quoi ? On signifie quoi ? Parce qu'on se rend compte que c'est compliqué. Et comme on est chrétien, je vais vous dire un peu ce que la Bible dit de la justice, et je vous rassure, comme quand la Bible dit des choses, ça ne simplifie pas. J'aime pas la simplification. J'ai regardé, je le fais rarement, mais pour une fois, je me suis dit, je vais m'attarder là-dessus, le mot justice en hébreu. Pas de bol, il y a 16 mots hébreux qui sont traduits par justice. Ça aide pas. 16 mots différents en hébreu qui sont traduits par justice. Et ces 16 mots, si vous les regardez dans tout l'Ancien Testament, on peut trouver 69 mots français qui disent la même chose. Autant vous dire que la notion de justice est très large pour l'Ancien Testament. J'ai été clair là, parce que quand je l'ai répété, je ne me comprenais pas moi-même. Donc, avec le 16-69, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est clair. Oui, ça a l'air. Hein. Ce qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament, c'est qu'il y a sérieusement un lien quand même aussi à la loi. Justice et loi. Mais ce qui est intéressant, c'est que la notion de condamnation est peu présente. Justice, loi, jugement est perçu assez positivement. Aujourd'hui, quand vous êtes convoqué à la justice, vous allez rarement en sifflant. Moi, ça m'est arrivé une fois, je ne suis pas allé en sifflant. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, la notion de jugement a quelque chose de positif. C'est Dieu qui juge. Pourquoi avoir peur ? S'il est parfaitement bon, parfaitement amour, ce n'est pas juste le justicier avec une épée. Il y a quelque chose de positif. Et le deuxième lien qu'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est la notion de la vertu. Je vous donne quelques mots qui sont traduits aussi. Agréable, sincère, heureux, droiture, équitable, bonté, vrai, équité, bonheur. Tous ces mots sont le même mot, finalement, et qu'on peut dire aussi justice. Et on se rend compte que ce n'est pas simplement alors un concept lié à la loi, c'est quelque chose qui est en nous, qui fait partie d'une valeur, d'une vertu, qui doit venir profondément en nous. Et il y a une fois un mot, et je sais qu'il ne faut pas faire une théorie à partir d'un mot, mais je le fais quand même. Une fois, le mot « justice » peut être traduit par « racine ». Et ça, ça m'a marqué. La racine d'un arbre peut être traduit aussi par « justice ». C'est comme si tout d'un coup, l'Ancien Testament nous disait que la justice, ce n'est pas juste un concept de droit, ce n'est pas simplement une valeur, c'est quelque chose qui te nourrit. C'est quelque chose comme la faim et la soif. Ça vous fait penser à un truc quand je vous dis faim, soif, justice. Il y Il y a quelque chose qui doit nous nourrir. Donc cette justice cassée par le péché qui devient primaire et vengeance est quelque chose qui est inhérente à l'être humain. C'est nécessaire, on en a profondément besoin. Et ça doit se traduire dans nos vies. Et ça se traduit dans nos vies de pécheurs par la vengeance. Et après la croix, on verra ce qui se passe. Comment se traduit cette justice alors dans nos vies. Nouveau Testament, 12 mots, un peu moins, pour dire le mot justice, mot ou déclinaison de mots. Et on trouve 39 mots en français pour dire la même chose. Il y a toujours cette énorme proportion liée à la loi, mais étonnamment, dans le Nouveau Testament, on est plus axé sur la vengeance ou sur la punition, contrairement à l'Ancien Testament, ça m'a marqué. Et puis, l'énorme axe aussi est sur, bien sûr, la justification faite par le Christ en Dieu, par Dieu, pour Dieu. Quelque chose alors se transforme à ce moment-là dans le Nouveau Testament où c'est plus simplement une justice, une vertu, une valeur, c'est quelque chose qui est transformé, qui est donné par le Christ et fait peut-être d'une manière qu'on considère injuste, mais qui transforme nos vies. Et il y a un mot que j'aime bien, qu'on trouve très souvent et qui est traduit ainsi normalement, la justice c'est l'état de celui qui doit être comme il est. Je répète. La justice est l'état de celui qui doit être comme il est. C'est profondément l'humanité. On doit être comme on est, juste. Et on peut l'être qu'en Christ, parfaitement juste. Alors, qu'en tirer ? Je vous rassure, j'arrive à la fin. Question de la légalité. Oui, il y a des lois pour nous protéger des uns des autres. Évidemment, je ne vous apprends rien. Il y a les lois de Dieu aussi pour nous aider à aller un peu plus loin que la protection des uns et des autres, pour s'aimer les uns les autres, se pardonner les uns les autres, être miséricordieux les uns envers les autres, aimer son ennemi les uns les autres. C'est vrai qu'il y a un côté arbitraire quand Dieu nous dit « tu aimeras ton ennemi ». Ça tombe comme ça. Voilà, il ne nous demande pas si c'est juste ou injuste. Je pense que fondamentalement, on trouve ça injuste d'aimer son ennemi. Et pourtant, la justice de Dieu nous le demande de le faire. Ce n'est pas une question, ce n'est pas un choix. C'est la justice en Christ. Lui, injustement, il a été sur la croix pour aimer ses ennemis, nous, qui ne le voulions pas. Il a tout fait et il nous demande juste de faire la même chose, même si on considère ça comme étant injuste. Donc, il y a cette loi. Et retenons qu'à Pâques, Jésus a accepté de se soumettre à une loi, à une espèce de tribunal ou simulacre de procès, mais il s'y est soumis. Il a accepté ce côté arbitraire de la loi juive et de la loi romaine, et il en est mort. Il s'est soumis. L'égalité dans le sens égal. Nous sommes tous les mêmes devant Dieu. Et l'acte de Dieu à la Pâques a été offert pour tous, pour nous tous, de la même façon. Et pourquoi j'ai pensé à cette notion de justice ? C'est vrai qu'Andrea avait prêché sur la question de l'Ukraine, des gens qui pourraient, et de la Russie, et du pardon de Dieu. C'est pour ça que j'ai lu ce texte de Jonas sous l'angle de la Russie. Dieu pardonne tout le monde. Si les gens acceptent le Christ, point final, qu'ils aient été les pires hommes de leur vie, ils acceptent, même si nous, on trouve ça injuste. Ça, c'est la justice de Dieu qu'on appelle la grâce. Et la grâce est profondément injuste. Il n'y a rien, selon à nos yeux, parce que la justice de Dieu est tout autre. On est tous justes aux yeux de Dieu, nous qui croyons. Mais ça veut dire aussi alors que nous sommes appelés en tant que chrétiens à faire vivre cette égalité. Quelque chose qui est énormément condamné dans l'Ancien Testament, c'est l'injustice sociale. L'inégalité de traitement au niveau des richesses. C'est une des choses la plus condamnée dans l'Ancien Testament. Nous qui habitons en Suisse, je pense qu'il faut y penser. Et quand on a découvert cette grâce de Dieu et cette justice, on doit se poser la question comment cette justice se manifeste pour aller contre des inégalités. Est-ce qu'on a ce même regard sur les autres que Dieu avait sur nous? Et je termine par la notion de racine, comme j'avais dit, parce que ça me marque. Il y a quelque chose de profond dans cette justice. Ce n'est pas juste un mot, ce n'est pas juste une loi, c'est quelque chose qui fait partie de vous. C'est quelque chose qui remonte quand on est touché, surtout en voiture. Comment est-ce que nous sommes rachetés par la justice de Dieu au plus profond de nous-mêmes? Et je vous avais demandé si ça vous avait pensé à un texte, mais ça fait partie des béatitudes. Hein? Heureux l'homme qui a soif de justice, car il n'aura plus faim, plus soif. Ce n'est pas simplement une valeur, c'est quelque chose qui nous nourrit profondément. Et si on va là dans ce sens, je pense qu'il y a quelque chose de profond qui se passe. Mais ça demande d'être racheté et de le vivre concrètement. On doit être imprégné. Heureux celui et celle qui a faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Je vais prier. On sort de Pâques, Seigneur, ce temps où on se souvient de cette mort et ses résurrections. Ça fait quand même pas mal d'années que je le vis, ça fait pas mal d'années que j'y réfléchis, ça fait pas mal d'années que ça me touche. Et pourtant, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans cet acte que tu as vécu. Parce que dans ma pensée à moi, il y a quelque chose d'injuste. Je ne saisis pas. Mais je me soumets à ta façon de faire, à ta justice à toi. Alors Seigneur, aide-nous, apprends-nous à découvrir ta justice. Transforme la justice qui est en nous et permets-nous alors de la faire vivre autour de nous. Que cette résurrection ne soit pas simplement un temps de Pâques, mais que ça soit une façon de vivre pour le restant de nos jours. Que ça ne soit pas juste une fête, mais que ça soit une action concrète autour de nous. Apprends-nous à vivre ta justice, apprends-nous à avoir soif de ta justice. Et j'ai presque envie de dire, pour aller plus loin que le texte, pas simplement pour nous rassasier, nous, mais pour rassasier tous ceux qui sont autour de nous aussi, de ta justice. Amen.